Jules Clarici, Ruines et fantômes, le 20 juin 1792. Nous avons aussi nos anniversaires. La France se souvient de certaines dates qui sont comme ses titres de gloire, et à côté de l'anniversaire douloureux du 18 juin, qui dit Waterloo, l'anniversaire du 20 juin dit résistance et affirmation du droit. Au 20 juin 1792, la question était nettement posée entre ces deux adversaires irréconciliables, la Révolution et la Cour. La Révolution voulait le progrès, la marche en avant, la délivrance suprême. La Cour était bien décidée à la réaction. La garde suisse chargeait ses fusils, les gentilshommes fourbissaient leurs épées ou aiguisaient leurs poignards. On parlait de fermer les clubs, d'enlever aux sections leurs canons et d'envoyer sous bonne garde à l'abbaye les orateurs populaires. Lafayette, campé à Maubeuge, était prêt à faire sonner le bout de selle et à lancer ses cavaliers sur Paris, balayant les rues et sabrant les gens comme au Champ de Mars. Il écrivait au roi ce mot terrible « Persistez, sire !» Persistez dans la résistance, dans la guerre, au droit, dans l'insolent veto, dans le défi jeté à la nation. Persistez dans le faux, dans l'odieux et dans l'absurde. Cette lettre signifiait cela. Les conseillers des monarchies sont tous les mêmes, aveugles et fous. Et le roi persistait. Le roi n'avait pas besoin d'être encouragé dans son appétit de réaction. Il en était comme nourri, il en avait la pléthore. Il se sentait protégé par les 3 bataillons suisses, 4800 hommes, soldats achetés qu'il pouvait, d'un signe, jeter sur l'Assemblée nationale à la moindre velléité de coup d'État. Il prenait déjà le ton tranchant et dur avec le Girondin Roland, qu'il subissait comme ministre de l'Intérieur. Il se sentait appuyé jusque dans l'Assemblée par les feuillants qui se rallieraient à Lafayette et applaudiraient à tous ses actes, fusillades et décrets d'accusation. La reine disait « Bientôt, tout le tapage cessera. » Et le roi répétait « Bientôt. » Alors, tandis que la cour complotait la confiscation du droit de réunion, tandis que les feuillants demandaient la mise en accusation du maire de Paris, Pétion, tandis que la garde suisse, buvant et chantant, se disait qu'elle tâterait bientôt du Parisien, des hommes s'assemblaient le soir chez le brasseur Santerre, en plein cœur du faubourg de gloire, et se demandaient ce qu'il fallait faire contre la cour qui résistait, contre le roi qui trahissait. Ils étaient là, dans la grande brasserie du faubourg Saint-Antoine, Santerre en uniforme de commandant du bataillon des 15-20, Rossignol, le formidable et gigantesque Saint-Huruge, l'ami de Camille Desmoulins, le Lord Seymour de la Révolution française. Ils parlaient, ils débattaient la question pendante. Que faire? Ce qu'il fallait faire, Vergniaud l'avait dit, et de la part de Danton, le gendre vint un soir le répéter en pleine brasserie, tandis que Santerre trinquait avec le commandant Alexandre et avec Lazovski, capitaine des canonniers de Saint-Marcel. Vergniaud avait dit, en montrant les Tuileries, « La terreur est souvent sortie de ce palais funeste. Eh bien, qu'elle y rentre donc au nom de la loi ?» Et le gendre, envoyé par Danton, ajoutait, « C'est aux Tuileries qu'il faut aller demander le rappel des ministres patriotes et la sanction des décrets. » Le mot avait été dit, il fut acclamé « aux Tuileries ». On irait aux Tuileries, sommer le roi, de tenir ses promesses, d'abandonner la politique hypocrite que ses conseillers lui faisaient suivre, et de reconnaître enfin la toute-puissance de ce peuple qui maintenant était le souverain. On irait en foule, on irait en armes, musique en tête, sans menace, avec le calme superbe et fier que donne la force. On irait, à cette date immortelle du 20 juin, date du serment du jeu de paume, Et tandis que des citoyens se rendraient en pèlerinage civique à Versailles, par cette route que les femmes avaient suivie au 6 octobre, mais cette fois pour y fêter l'anniversaire, d'autres citoyens des faubourgs, après avoir défilé devant l'Assemblée et parlé aux représentants du peuple, entreraient au palais des rois et opposeraient enfin leur sic volo, sic jubeo, au veto stupide de Louis XVI. « Le peuple le veut ainsi », allait dire fièrement un orateur populaire dont l'histoire n'en a point le nom, et devant ce chêne robuste, « le faible roseau doit plier ». Le colonel Azovski fit voter par les sections qu'on planterait à cette date du 20 juin un arbre de la liberté sur la terrasse des Feuillants. Le frémissement des feuilles du peuplier rappellerait peut-être au roi l'approche des grands orages populaires. « Si 20 personnes se présentent au roi, dit quelqu'un de la cour, sa majesté recevra la pétition. » La pétition du peuple fut portée par 20 000 citoyens. Ils étaient 20 000 à cette aurore du 20 juin, marchant par les faubourgs, le soleil faisant joyeusement étinceler l'or des canons et l'acier des pics. Dans l'air chaud et sous le ciel bleu sans nuages, les drapeaux flottaient comme au jour des fédérations heureuses. Des musiques marchaient devant la manifestation populaire, jouant le « ça ira » que scandaient les sabots des sans-culottes, tandis que de ce flot humain qui roulait une foule enfiévrée, hommes, femmes, enfants, vieillards, carmagnoles et bonnets rouges, de grands cris sortaient, cris d'espérance plutôt que de colère. « Vive les patriotes !» Et à la tête de la foule ceinturuge, las de porter l'habit du marquis, le géant ceinturuge, déguisé en fort de la halle, paradait. Des hommes portaient le peuplier enrubanné qu'on devait planter devant les Tuileries, et sans terre, dont le soleil faisait reluire les grosses épaulettes, disait de sa forte voix, comme il allait tout à l'heure le dire en pleine assemblée à tout ce cortège, « En avant, arche !» Et ce flot, ce torrent, cette mer mugissante allait, poussait, entrait dans l'assemblée, se heurtait aux grilles, s'engouffrait dans les corridors ou les cours, grossissait, montait, emplissait les escaliers, traînant, portant des canons, voyant de loin briller les mèches allumées des canonniers de la garde nationale. Point irritée, plutôt gaie, résolue, mais point haineuse, et pourtant décidée à la lutte si on avait fait feu sur elle. Un coup de feu à cette heure, et c'était malheureusement chose plus difficile qu'aujourd'hui. Les armes à pierre, grossières, ne partaient pas facilement. À cette heure, le revolver rendrait atrocement tragique de telles journées tumultueuses. C'est beau et était écrit avant ces dernières guerres civiles où le revolver a tristement joué son rôle. Il semble en effet que les armes de précision éclatent toutes seules. Au 20 juin, pas un coup de feu, pas un mort. Et pourtant, les Tuileries étaient prises. Le flot coulait dans les appartements, les femmes, âmes décharnées, sabres en main, entouraient la reine. La disette et la misère se dressaient hurlantes devant le roi. Louis eut le flegme écrasant de l'homme gras qui reste impassible. Il ne broncha pas, il gagna du temps. Une fois pourtant, il tressaillit. Le gendre, en lui parlant, disait « Monsieur, je suis votre roi, fit-il. » Le gendre reprit, « Oui, monsieur, et écoutez-nous, vous êtes fait pour nous écouter. » Tout à l'heure, Louis XVI allait se coiffer d'un bonnet rouge, y mettre une cocarde tricolore et crier « Vive la nation !» mais il temporisait. Il disait d'ailleurs, résolu lui aussi, « Je n'ai pas peur, j'ai reçu les sacrements. » La foule grossissait dans les appartements. Dans la buée torride d'une chaleur étouffante, ce peuple s'agitait comme dans un brouillard d'étuve. Le roi apoplectique semblait indifférent. Les faubouriens, eux, riraient, criaient, tâtaient le lit de plumes du roi et le trouvaient bon. Voir Michelet. Assis devant une table à côté de Madame de Lamballe, la reine pâle regardait. Le petit dauphin, grimpé à côté d'elle, suait sous un bonnet de laine rouge. Pétion, qui se trouva ainsi, dit « Il étouffe, cet enfant-là !» Et il ôta le bonnet du front du prince. Depuis 3 heures de l'après-midi, les Tuileries étaient prises, envahies, et les troupes n'osaient bouger de peur de faire feu sur le roi. Louis XVI était déjà prisonnier. Prisonnier dans son palais, comme un mois plus tard au temple. Isnard et Vergniaud vinrent, puis Merlin de Thionville, puis Pétion pour le délivrer. Merlin de Thionville, futur commandant des Maillancais, celui qui, toujours debout à la batterie, fut par les Prussiens assiégeant Mayence appelé le démon de feu, Merlin, voyant la reine affaissée, écrasée, injuriée, versa une larme. « Ah, vous pleurez, monsieur, lui dit la reine. Vous le voyez, vous pleurez. » Et Merlin, fièrement, « Oui, madame, je pleure. Je pleure parce que je vois une femme et une mère malheureuses. Mais je ne pleure point sur la reine. Je hais les reines autant que je hais les rois. » Le peuple, à la fin, s'écoula. « C'est assez, avait dit Pétion, retirez-vous. » Et plus d'un, hochant la tête, plus d'un sectionnaire qui avait entendu le roi beaucoup crier « Vive la nation !» et ne l'avait pas vu signer un décret pour la nation, plus d'un répétait « Rien n'est fini, tout est à refaire. Le veto existe, il faudra revenir. » Et le soir, on rentra les canons muets du 20 juin, qui allaient devenir les canons terribles du 10 août. Le 10 août est en effet contenu dans le 20 juin. Le 20 juin, c'est l'avertissement que le peuple donne au roi. Le 10 août, c'est la leçon formidable donnée au roi par le peuple. Les sections pouvaient maintenant marcher aux Tuileries, elles en savaient le chemin. Le soir, tandis que le théâtre de la nation jouait Castor et Pollux, et que le théâtre de Mademoiselle Montansier donnait la première représentation des jumeaux de Bergame, les noces cauchoises et Jeannot ou les battues, paient l'amende, la nouvelle se répandait dans Paris que le général Luckner annonçait qu'après une canonnade héroïque de 3 heures, les troupes françaises, les volontaires de la Révolution, étaient entrées dans Courtrai, aux acclamations du peuple, et repoussant devant eux l'ennemi tout en chantant. Le peuple, vainqueur aux Tuileries, l'était aussi aux frontières. Souvenirs d'autrefois, grandes journées tumultueuses, poudreux et superbes souvenirs qui sentent en quelque sorte le salpêtre et le soufre des journées d'orage. Comme on en parlait un jour vers 1835 à ce Barère, qui, tout rhéteur qu'il fût, avait pourtant encore l'âme révolutionnaire, il regarda avant de répondre ce qui lui reprochait l'audace, la violence, les moyens rapides et foudroyants de ces hommes d'alors. Il semblait hésiter à sortir d'un silence qu'il s'imposait peut-être. Puis tout à coup, « Jeunes gens, dit-il d'une voix grave qui semblait sortir d'un sépulcre, « Jeunes gens, vous nous trouvez insensés et égarés. Souvenez-vous pourtant d'une chose, et que c'est Barère qui vous l'a dite, c'est que la vérité n'arrive à l'oreille des rois que par les portes enfoncées. » Et Barère redevint muet.